Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut Théo.
Aujourd'hui, c'est jour de prescription, les amis. Je vous le rappelle, la prescription, c'est notre petit tour d'horizon, enfin surtout celui de Gauthier, sur les albums parus durant les dernières semaines et peut-être quelques rééditions si vous êtes sage en fin d'émission. On vous recommande en gros quoi écouter ou ce dont il fallait impérativement s'éloigner. Et je ne crois pas trop me tromper en annonçant que le premier album dont on va vous parler fait partie de la seconde catégorie, parce qu'il s'agit de la dernière production du groupe britannique Coldplay, présentée sur iTunes Music comme les papes de l'arena rock. Oui Gauthier, je ne connaissais pas ce terme, je pense qu'il aura fallu l'inventer pour eux et U2.
Ouais.
À peu près l'arena rock.
Et encore, c'est pas valorisant de comparer U2 à Coldplay, mais...
Eh oui, mais donc, si tu veux, c'est comme ça. Les Britanniques reviennent avec un 10e album intitulé Moon Music. Alors, pour commencer, on ne s'écoute pas un extrait et je vais laisser Gauthier le démonter comme il se doit.
Ouais, c'est parce que ça mérite vraiment ça. C'est plus que U2, l'arena rock, à mon avis, le pendant de Coldplay en termes de rock, c'est Muse.
Ils ont
des trajectoires plus similaires.
Tu as raison.
Écoute Théo, que te dire de cet album? Ça démarre comme un très très mauvais Sigur Rós pour lequel le talentueux John Hopkins, qui est crédité sur la chanson, serait venu prendre un chèque. Ça se termine, cette première chanson, sur une mélodie mièvre à pleurer et tellement prévisible, parce que ce qui caractérise de plus en plus les mélodies de Chris Martin, c'est une prévisibilité terrible. Mmh. Tu peux quasiment chanter ces chansons quand tu les écoutes la première fois, tu sais. De notre côté, c'est un talent. Ça enseigne sur une chanson qui est faussement cool, qui ne manquera pas de faire vibrer probablement un parterre de jeunes filles biberonnées à Arena Grande dans un stade mythique devenu le temps d'un soir le temple du mauvais goût. Je pense à Wembley, Théo, par exemple, à ces beaux stades que ces gens vont massacrer avec leur musique épouvantable. Il y a même à la fin de cette deuxième session le petit la la la, tu sais, de fin pour que le public non anglophone puisse participer à la fête au cas où ils n'auraient pas appris les paroles. La troisième chanson, ça démarre avec une espèce de pseudo petit rap dont on aurait repris la délicatesse à un Usher's aux stéroïdes. C'est épouvantable. Ces gens ont la finesse d'une youtubeuse beauté, la sensibilité d'une scène d'amour dans un Marvel entre Hulk et Black Widow. C'est nul et plus que tout, c'est dénué de toute qualité artistique. C'est à la musique ce que les Knacky Balls sont à la vie. C'est insipide, c'est vulgaire, c'est vénal, et je pense même, Théo, à bien des égards, que c'est mauvais pour la santé et pour vos oreilles. En tout cas, fuyez cet album, fuyez Coldplay, fuyez ces gens, ne leur donnez pas d'argent, je vous en supplie. C'est nul à chier, et tu comprendras, Théo, que j'ai arrêté d'écouter à la troisième chanson parce que...
Et t'as même arrêté d'écouter au premier album, non?
Non, parce que je travaille pour Thérapie Pop et que mon travail est d'écouter les albums qui sortent. Donc j'écoute régulièrement les dernières productions de Coldplay et c'est insoutenable.
Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'eux, on dit écoutez le premier album quand même, il était pas si mal.
Écoutez le premier album,
Parachute,
c'était pas si mal.
Pour mémoire.
Oui, mais on l'avait chroniqué et souviens-toi qu'on avait lu la critique de Pitchfork à l'époque de la sortie de Parachute qui pressentait que ces mecs n'étaient là que pour faire de la thune. Et ben bravo Pitchfork, qui avait senti dès la fin des années 90 que ces gars n'avaient aucune qualité artistique, que ce n'était que des banquiers ou des traders de la musique. C'est l'enfer.
Je t'ai rarement entendu démonter un album comme ça.
Ben écoute-le.
J'ai écouté le premier morceau, je fais ouais, c'est bon.
Ouais, voilà. Moi j'ai tenu jusqu'à la troisième piste.
Et ben je te félicite.
Et j'ai arrêté.
Et Dieu merci parce que ça nous épargne une litanie d'insanité.
C'est horrible.
On retourne en France, les amis, avec La Femme, un sympathique groupe parisiano-basque qui a une cadence de production proche de celle des Beatles dans les grandes heures. Je me souviens plus si on avait chroniqué Paris Hawaii qui était sorti l'année dernière, mais ils reviennent avec un album, donc leur album annuel intitulé Rock Machine. Je sais pas si de rock il est bien question. Ce qui est sûr, c'est que comme à l'accoutumée avec eux, ça ne manque pas de rythme. On s'écoute un extrait, c'est Clover Paradise.
Just now.
Clover Paradise, donc de La Femme. C'est toujours aussi sombre, hein.
C'est toujours aussi sombre, ouais.
Bah si, Gauthier, ça transpire pas.
Celui d'avant, là, tu sais, c'était celui qui s'était sur des...
Paris Hawaii.
Non,
et avant, il y avait
avant,
eu Teatro, Teatro...
Qui était plus sur des airs brésiliano-hispaniques, plus léger, on va dire.
Teatro Lucido, un truc comme ça, j'ai oublié. Il y a Teatro dedans. Et que t'es pas si idiot.
Que t'es pas ouf.
Ouais, d'accord. Et celui-ci, alors, il est ouf ou il est pas ouf?
C'est pas top, Théo. C'est pas top, on alterne le lourdingue avec des chansons comme Love is Over et le franchement un peu ridicule Ciao Paris, qui je crois leur un de leurs singles, qui est vraiment pas bien. Et cette fois-ci avec un album, parce que c'est vrai que d'album en album, ils rendent souvent hommage à des styles manifestement un peu différents. Cette fois-ci, comme vous l'entendez, je suppose que c'est un hommage à la Cold Wave aux années 80.
J'allais dire la New Wave, ouais.
Alors on ne doute pas une seule seconde qu'ils s'amusent comme des petits fous en studio à faire ça, mais honnêtement, ça ressemble de plus en plus à un trip gênant entre copains, un trip entre copains mais qui est gênant pour l'entourage. La candeur et la spontanéité des débuts de La Vague, etc. Est vraiment, je trouve, bien loin, ça ressemble maintenant vraiment beaucoup plus à une fin de soirée. Et franchement, si je peux leur dire un truc, les mecs, l'intérêt de chanter en anglais, c'est généralement de profiter des intonations de la langue anglaise et de la musicalité de la langue anglaise. Alors arrêtez de chanter comme des quatrièmes après leur première bière, c'est vraiment marrant, deux minutes, mais à la force, ça lasse et ça ne sert pas la musique, puisqu'en fait, ils utilisent l'anglais, mais en le massacrant avec un accent très français. Donc tu perds la mélodie, le côté mélodique, on va dire, de la langue anglaise. Enfin, tout ça pour un espèce de son de feria, toujours.
Enfin, je pense qu'il... Pour le coup, ils chantent mieux anglais que nous, Gauthier, quand même.
Je sais pas trop, parce qu'ils font vraiment aucun effort de prononciation. Mais vraiment aucun.
Ouais.
Bon, en tout cas, tout ça pour te dire, Théo, que pour moi, en tout cas, je pense que je vais m'en arrêter là avec La Femme, surtout s'ils continuent à faire un album par an en changeant de style.
Tu parles l'année prochaine, je suis sûr qu'on en reparle.
Ben non, parce que le dernier, on n'en avait pas parlé.
Oui, c'est vrai, voilà, on l'avait sauté.
Oui, ben on va ressauter le prochain, sauf si vraiment les chroniques sont dithyrambiques. Non mais voilà, c'était très drôle au début La Femme, parce que justement ça avait cette spontanéité vraiment cool, peut-être due un peu à leur côté sud-est de la France et tout, sud-ouest de la France plutôt. Maintenant encore une fois...
Puis avec Clara Luciani.
Ouais, mais je te dis, maintenant ça ressemble vraiment à un vieux trip de fin de soirée entre potes. Alors ils doivent vraiment beaucoup se marrer eux, j'en doute pas une seule seconde, mais pour les auditeurs c'est de plus en plus pénible.
Bon, dont acte, c'est au tour de Japandroids, duo canadien, comme leur nom ne l'indique pas, de passer sur le gré de la prescription. Ils reviennent avec un quatrième album intitulé Fate and Alcohol. On notera une cadence de production moins élevée que chez La Femme, puisque eux, c'est leur quatrième album en 15 ans.
Et dernier, en principe.
Ah bon ?
Oui, ils sont censés arrêter.
On verra. En revanche, pour ce qui est de la cadence musicale, eux, ils répondent présents. Voilà qui devrait réveiller ceux qui s'étaient assoupis sur Soccer Mommy, qu'on n'a pas écouté, puisqu'on en parlera
le mois prochain.
Le mois prochain.
L'album n'est pas sorti.
On s'écoute Fugitive Summer. This just in, you're beginning again. Done doing the dance for an ungrateful audience. Ça, c'est Japandroid, Fugitive Summers.
Eh oui.
Ça dit quoi, Gauthier ?
Alors, Japandroid, c'est un groupe qu'on avait chroniqué aussi, Théo, le temps même de tout un album. C'est un groupe qui a toujours joué sur un fil extrêmement mince entre une sorte de rock de lycéen universitaire tout droit sorti d'American Pie.
Tellement.
Ouais. Et plus valorisant, une sorte de garage rock truffé d'hymnes adolescents et puissants. Et malheureusement, ce fil est bien évidemment très tenu, ouais, et parfois difficile à tenir. Alors, l'album s'ouvre avec une chanson, Contact mm-hmm. Eye, là pour la peine en haut, c'est chiant à prononcer, qui sans être excellent ressemble à du pur Japan Droids, mais qui n'est pas un hymne comme il savait le faire, et qui est en fait un peu dès le début à l'image de cet album. On sent qu'on n'atteindra pas les sommets, parce que oui, il faut parler de sommets avec Japan Droids, avec leurs deux premiers albums qui étaient absolument remarquables, particulièrement le deuxième. Mais encore une fois, on ne retrouve pas ce côté absolument hymne. Je vais me permettre une comparaison très osée, mais Japan Droids, c'est au garage rock ce qu'a été Oasis au rock, si tu veux. C'est-à-dire des mecs qui composent des mélodies très simples, très vite, très systématiques, ouais, et très, très puissantes, on va dire, dans des refrains que tu as toujours envie de chanter. J'ai passé des heures en voiture, mon cher Théo, à hurler, notamment The House That Heaven Built, que je vous encourage vivement à écouter, une des chansons de Japan Droids. Alors, on alterne avec des bons gros rock, je pense à la chanson notamment DLT ou Alice, qui est une chanson intéressante parce que la guitare est extrêmement minimaliste, on va dire, ça ressemble d'ailleurs à des accords d'Oasis, mais quand on l'écoute et qu'on se penche sur la mélodie, on se rend compte que c'est plus complexe que ça n'y paraît, et puis il y a carrément des actes manqués, c'est peut-être ça qui est un peu dommage avec cet album. Je pense à la chanson par exemple Chicago, qui aurait pu être le Continuous Thunder de cet album, qui était une chanson magnifique de leur deuxième album, mais dont le refrain démolit complètement la tension émotionnelle, qui l'a fait complètement retomber. Même constat par exemple avec Upon Sober Reflection, et d'ailleurs c'est très étonnant, ils ont tendance sur cet album à ralentir leur refrain, ce qui est, comme vous l'entendez en principe, pas leur qualité première.
C'est pas leur marque de fabrique.
Non,
ouais.
Généralement ça trace. Bon, alors ça c'est les bons rock. Malheureusement, en plus sur cet album, il y a des choses qui sont vraiment pas top. Je pense à la chanson Gaslight Anthem notamment, ou Positively 34 Streets, ils m'ont pas aidé avec les noms de chansons, qui ressemble un peu à une chanson qui aurait figuré dans une comédie romantique, mais avec Gérard Butler, tu vois, donc pas le truc le plus léger du monde. Ils ont en plus jamais fait de grands efforts pour leur pochette d'album Japan Droids, et je crois que sur cet album, ils se sont dépassés, la pochette est nulle, c'est juste un portrait d'eux fait avec un iPhone, enfin c'est vraiment pas top. Et ça m'a fait penser à autre chose qui était plus important. Bon, allez réécouter encore une fois leurs deux premiers albums qui sont absolument fondamentaux, particulièrement le deuxième. Et ça montre aussi comme l'évolution d'une carrière dans la musique et particulièrement dans le rock n'est pas une chose simple et aussi tellement fondamentale quand on voit l'imbrication qu'il peut y avoir entre l'œuvre et l'intention qui l'a fait naître. Chez Japan Droids, dans les premiers albums, notamment, ils étaient jeunes, il y avait cette espèce d'urgence, cette fougue absolue qui leur faisait jouer à fond les ballons et qui, je pense, n'existe beaucoup moins déjà parce que...
On leur trouverait un petit peu là, Gauthier.
Alors, c'est parce que je t'ai mis des bonnes chansons de l'album, mais ouais, sur beaucoup d'autres chansons, et notamment, comme je te le disais, par exemple, sur Chicago ou sur la chanson Upon Sober Reflection, où ils font tomber les refrains, en fait, t'as juste l'impression qu'ils ont vieilli ou qui se sont assagis, et que ceux qui animaient leur premier album, cette espèce d'urgence d'ado sorti du lycée ou qui viennent de rentrer à l'université, ben en fait est mort avec l'âge, tout simplement, et le temps qui passe. Je pense que leur premier album doit avoir 10 ou 20 ans maintenant, plutôt 10. Et voilà. Et l'intention, dans un groupe de rock, ça reste quand même quelque chose d'absolument fondamental. Je renverrai aussi à la discographie, on va dire, un peu bizarroïde des Stones, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire du pognon dans des stades, et qu'ils ont arrêter le blues des débuts, quoi. Voilà, donc un peu dommage cet album qui n'en demeure pas moins mauvais, allez bien plus écouter Japan Droids que Coldplay ou La Femme, mais qui demeure nettement moins bien que les deux premiers. Si je peux encore une fois vous donner un conseil, foncez sur le deuxième qu'on avait chroniqué, Celebration Rock, si je me souviens bien, et qui était effectivement une célébration pour le rock.
On va partir désormais sur quelques envolées électro avec Caribou, Gauthier. Caribou canadien, lui, comme son nom l'indique, en revanche.
Là, pour la peine, oui.
Voilà. De son vrai nom, Daniel Visnais, le compositeur a sorti Honey au début du mois d'octobre. Et il faut dire que dans un autre genre que Japan Droids.
Ah oui, nettement, oui.
Ouais, mais ça dégage tout aussi bien les tympans, quand même. On s'écoute Climbing.
Je t'en ai mis une un peu douce, mon cher Théo, parce que je sais la fragilité de tes tympans. Oui, je savais que j'allais les soumettre à rude épreuve avec Japan Droids. Climbing, tu me disais?
Oui.
Climbing.
Donc ça, c'est Caribou, ça.
Oui, mais c'est calme.
C'est un peu... c'est péchu, quand même.
C'est un peu péchu.
C'est péchu calme. Calme c'est... péchu.
Écoute, tu es pas facile. Toi, quand on te met pas de la folk à guitare sèche, t'es perdu. Je t'aurais dû te mettre un extrait de Coldplay. Alors, Caribou, je vais encore faire un peu le vieux con.
Si je oui, ça mis... changera pas.
Non, si je l'ai mis dans la prescription, c'est parce que c'est un artiste extrêmement intéressant. Son dernier album m'a malheureusement laissé l'impression d'être arrivé 20 ans trop tard. Ce qu'on entend, apparemment, ça ressemble vachement à de la French Touch des années 2000, quoi. Ouais. Headbanger aurait pu sortir ça en 2000, quoi. Ou Valerian and Friends, notamment, je pense à ce label qui était extraordinaire pour faire cette espèce d'électro inspiré des années 80. Donc l'album est pas terrible, pas mal, mais pas terrible. Il est beaucoup plus électro que ce que vous entendez là, même si je sais, Théo, que ça déjà, ouais, ça tamponne beaucoup. Allez surtout vous interroger à la discographie de Caribou, qui prend un virage depuis notamment l'album en 2007, Andorra, de plus en plus électro, mais Andorra notamment, ou l'album Swing en 2010, était vraiment de pure merveille. Et ça reste un mec qui... Bah alors, on parlait de la difficulté de faire évoluer une carrière, lui ne tient pas en place. C'est peut-être un peu dommage de faire une électro aussi datée. Je pense en plus à ce qu'on avait chroniqué le mois dernier, à savoir le dernier Jimmy XX, que ouais, notre cher Valran disait comme étant résolument moderne et avec cette capacité étonnante à vendre de l'électro diverses et variées en le rendant très populaire. Bon, Caribou est peut-être un peu là-dedans, mais c'est pas le meilleur album incontestablement. Foncez sur Andorra, qui était un bien meilleur album, et plus pop, Théo.
Bon, je prends note.
Il te satisfera un peu plus.
Il est désormais l'heure d'évoquer la sortie de Cutouts par le groupe The Smile, un groupe composé entre autres, je le rappelle, du génial Thom Yorke et du tout aussi talentueux Johnny Greenwood. Ils reviennent très rapidement, 8 mois après avoir dévoilé Wall of Ice. Alors, il faut dire que ces deux albums sonnent comme un peu un diptyque, étant donné qu'ils ont fait partie des mêmes sessions d'enregistrement, ce qui rappelle un peu le Kid A amnésiaque du Radiohead, dont sont issus d'ailleurs Thom Yorke et Johnny Greenwood. Ça, c'était le Radiohead de la grande époque. On s'écoute un petit extrait, c'est Eyes and Mouth. La délicieuse voix de Thom Yorke, reconnaissable entre toutes. Alors, il est bien cet album ?
Ouais, il est hyper intéressant. Alors, The Smile, c'est un peu le laboratoire pas trop secret de Radiohead, effectivement, où Thom Yorke et Johnny Greenwood expérimentent, à mon avis, tout ce qui ne peut pas figurer sur un album de Radiohead, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas plus facilement, on va dire, vendable dans le cadre d'une production plus pop.
Ça fait un petit moment, d'ailleurs, qu'on n'a pas entendu un album de Radiohead.
Bah, le dernier, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je crois.
Ouais.
Oui, bah, écoute, ils prennent le temps.
Ouais.
Et dans The Smile, comme toujours avec eux, ils continuent à jouer avec les limites quasiment d'une partition pop. Ils continuent aussi parfois à jouer avec les limites de notre tolérance. Je pense notamment à la chanson Don't Get Me Started, qui n'est pas évident. C'est un album qui est résolument exigeant, qui est aussi résolument moderne et expérimental. Et donc en soi intéressant, parce que quand Johnny Greenwood, notamment, dont vous entendez la guitare folle, et notre cher Thom Yorke font de l'expérimentation, il faut écouter, parce que ces gens sont, pour ce qu'on peut le dire sans trop dévoyer le mot, des génies. Et ils sont en fait l'exact opposé de nos amis Coldplay, qui je pense ont arrêté de réfléchir à leur art au milieu des années 90, c'est-à-dire même avant leur premier album. Eux, ils continuent. C'est d'une originalité débordante, c'est d'une virtuosité absolument inouïe. Je vous encourage à écouter la chanson Zero Sum, où Johnny Greenwood a décidé en fait de rendre comme partition de guitare lead, c'est-à-dire comme partition qui pose la mélodie, quelque chose qui serait l'équivalent d'un solo dans n'importe quelle chanson normale. C'est incroyable. Ça rend hommage aussi beaucoup à Talking Head. On rappelle que Radiohead
s'appelle
Radiohead voilà, à cause de Talking Head, groupe des années 70-80 qui était aussi assez osé dans leurs expérimentations. Et allez écouter donc celle qu'on vous met, mais également Colorfly qui est obsédante, qui est brillante. C'est parfois encore une fois un peu exigeant comme un album de jazz, mais ça mérite de s'y pencher parce que ces mecs sont, ouais, je le redis une dernière fois, mais incontestablement des génies et probablement peut-être les plus grands musiciens de notre génération.
Je me permets un tout petit rectificatif. Dernier album de Radiohead, 2016. Moonchild Pool.
Ah non, oui, ça remonte beaucoup.
Ouais.
Ah ouais. Tu vois,
donc The Smile a un peu pris le pas sur Radiohead. On va terminer notre petit tour d'horizon avec trois rééditions. Donc on va commencer avec un groupe dont j'ai jamais entendu parler, Gauthier, c'est ta petite pépite du mois, il s'appelle American Football.
Ouais, American
Football. Et c'est pas eux qui jouent.
Non, c'est pas eux qui jouent. Alors ils ont sorti un album de cover, c'est-à-dire de reprise de leur premier album qui avait fait l'objet d'une réédition, je crois, cet été parce que c'était quelque chose comme ses 35 ans. C'est un groupe américain, American Football, très intéressant, américain, quasi
oui,
certain. Intéressez-vous.
Ils sont américains.
Ouais. Intéressez-vous à la discographie qui est de toute façon très courte et à ce premier album qui était hyper.
Il y avait trois albums, dont celui-ci qui est un album de reprise.
Ouais.
Ensuite, évidemment, on a nos chers Kinks.
Oui, une réédition. Alors, je voulais la mentionner, un remastering d'un album de 78, Misfits, qui n'est incontestablement pas
l'album du siècle.
Non, qui n'est pas l'album le plus connu des Kinks, ouais. Qui correspond à un peu à leur période américaine, c'est-à-dire des compositions qui sont plus rock et moins british, mais ça reste un album incroyablement sous-coté, un album incroyablement peu écouté. Les gens en général sur la discographie des Kings s'arrêtent à Lola notamment, et c'est une grosse bêtise. Allez écouter Misfits, c'est un très bel album, et allez écouter sinon Muswell Hillbillies, qui est un autre album un peu de la période américaine des Kings. On a arrêté de les écouter en 70-71, et pourtant les frères Davis ont continué, et parfois pour de très belles galettes, notamment celle-là.
Bon. On termine avec Suède.
Oui, la réédition pour l'anniversaire, là pour la peine, c'était en octobre 94 que sortait de l'album Dogman Star. Et comment ne pas rendre hommage à cet album et à ce groupe Suède, je le rappelle, c'était les numéro 1 de la Britpop, c'est quasiment eux qui ont créé la vague sur laquelle Oasis, Blur, The Verve, Pulp a surfé. Ouais. Et qui ont eu en plus un courage artistique absolument improbable, puisque alors qu'ils avaient créé une vague musicale quasiment eux tout seuls, ont décidé d'en sauter immédiatement dès le deuxième album. Je cite le dénommé Anderson, qui était l'une des têtes pensantes du groupe. Dès que nous avons pris conscience de ce que nous étions pour la Britpop, nous en sommes partis immédiatement avec Dogman Star. Vous n'avez pas pu trouver un disque moins Britpop, c'est torturé, épique, extrêmement sexuel et personnel. Aucune de ces choses ne s'applique à la Britpop. C'est quand même incroyable que des mecs qui créent un mouvement musical quasiment eux tout seuls décident de le reset dès le deuxième album, laissant la Britpop à Oasis, à Defeated Maybe, à Blur, à The Verve, etc. Pas une erreur, parce que c'est un album.
Quand tu vois le succès d'Oasis, Blur...
Et de Suède, oui, comparé à celui de Suède. Un album qui, à l'époque, n'avait pas trop été apprécié. J'ai retrouvé une critique du magazine Rolling Stones, qui n'a jamais eu le nez creux pour quoi que ce soit, qui disait « L'un des albums les plus prétentieux jamais sortis par un grand label. » Non, c'était juste quasi avant-gardiste. C'est un album qui a trouvé ses lettres de noblesse bien plus tard. C'est un grand album, Dogman Star, d'un grand groupe Suède. Il méritait qu'on en parle.
Bon, alors, chers amis, cette émission touche à sa fin. On va s'écouter un petit extrait, donc, pour ceux qui de Dogman Star de Suède, donc cet extrait c'est Héroïne. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, on vous parlera d'un tube qu'on aime beaucoup, c'est Walk on the Wild Side de Lou Reed. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier.
Salut Théo.
Salut, à lundi. Complicating the boys in the yard.
this and tell.